RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous sommes à Abidjan cette semaine, une ville de 6 millions d'habitants qui devrait en accueillir 8 millions en 2030, même si le verbe accueillir est plutôt mal choisi car les plus pauvres qui arrivent s'installent où ils peuvent, essentiellement dans les bas-fonds, au bord de la lagune ou des canaux d'évacuation des eaux usées. Résultat, quand il pleut, comme dans de nombreuses villes d'Afrique subsaharienne, c'est la catastrophe. Inondations et éboulements font des morts chaque année. Alors ici, le gouvernement a décidé d'agir. 176 zones à risque ont été identifiées et en quelques semaines, des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue. Leurs habitations de fortune ont été détruites par des bulldozers. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly, c'est une question de santé publique.
Il faut protéger les vies humaines. Il faut éviter que nous ayons à chaque saison de pluie des morts. Si je prends seulement sur les 5 dernières années, c'est plus d'une centaine de morts que nous avons eues.
Alors comment s'attaquer à ce problème sans que ce soit les plus pauvres qui en subissent les conséquences? Ce sujet est une véritable bombe à retardement dans les capitales africaines, car si l'intensification des pluies extrêmes liées au changement climatique semble être la cause première, c'est l'urbanisation rapide et mal planifiée qui accentue le phénomène. La gestion des inondations, c'est l'un des thèmes sur lequel ont travaillé une trentaine de jeunes du Bénin, du Cameroun et de Côte d'Ivoire, dans le cadre du programme Hip Hop Ville Durable organisé par RFI Planète Radio et l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Après 2 ans de formation scientifique et technique, ils ont réalisé des vidéos sur les conditions de vie dans leur ville pour dénoncer les difficultés. Cette semaine, ils se retrouvent tous à Abidjan pour faire le bilan. Mais pour tenter de bien comprendre la complexité de la gestion des eaux usées à Abidjan, nous avons rendez-vous justement avec une hippopeuse. Bonjour Mariam.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors où est-ce que vous m'avez emmenée là?
Nous sommes précisément à côté du zoo, avec le gros caniveau qui se tient là. Et nous avons constaté que dans ce caniveau là, vraiment toutes les ordures sont déversées là-dedans. Ce qui bouche le caniveau d'ailleurs. Et en saison des pluies, on constate que toute la zone est inondée quand il pleut, à cause des plastiques qui bouchent le caniveau.
Alors ce caniveau, il faut expliquer, c'est une sorte de canal hein, en fait, de 3-4 mètres de large qui va très 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 loin jusque dans la lagune. Et les gens à Abidjan, pourtant ils ont l'obligation légale d'avoir des fosses septiques, mais ils ne le font pas parce que ça coûte cher.
Apparemment pour certains ça coûte cher et pour d'autres on se rend compte que quelque part c'est la mauvaise foi en griffe. Parce que très souvent ce sont des propriétaires de coûts qui ont des moyens pour créer des fosses septiques, mais qui préfèrent relier directement leur tuyau au caniveau. Pourtant, ce caniveau-là relève du domaine public, et donc c'est illégal de brancher directement son tuyau-là.
Et par conséquent, qu'est-ce que l'on retrouve dans ce caniveau?
À la base, c'est créé pour évacuer l'eau pluviale. Mais on se rend compte que voilà, les eaux usées domestiques, on retrouve les eaux usées domestiques des maisons environnantes, et aussi tout ce qui est déchets plastiques, sachets, bidons d'eau, etc. Des personnes qui urinent même là-dedans.
Alors aujourd'hui, ce n'est pas très très plein, mais parce que le niveau monte et descend. Et autour de ce canal, là, nous sommes à un carrefour. Il y a beaucoup de vendeuses au bord de la route, comme vous. Bonjour madame.
Bonjour. C'est quand vous, ici, les dames là finissaient et ils balaient. Mais les dégâts de l'eau qui vient, c'est ça qui envoie les nyama-nyama.
Et le caniveau, parfois, il y a des odeurs?
Oui, il y a l'odeur.
Il y a les mauvaises odeurs et quand il y a la saison des pluies, ça déborde?
Oui, quand il pleut, ça déborde. Ça passe partout.
Et comment vous faites alors?
On quitte. On quitte.
Donc à ce moment-là, vous ne pouvez plus vendre votre pain?
Quand on quitte, on va. Moi, je vais en ville. Je m'assois.
Vous allez vendre ailleurs. Alors pourquoi vous venez toujours ici?
Bon, souvent, comme il y a beaucoup d'hommes, c'est pour ça qu'on s'assoit un peu ici.
Il y a beaucoup de gens qui passent, donc
oui,
des gens qui achètent le pain.
Il y a beaucoup d'hommes qui passent, souvent ils achètent les choses.
Et ça vous dérange, vous, ce canal?
Bon, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas.
Madame, elle dit que ça ne la dérange pas.
Oui, effectivement, parce qu'en fait, on se rend compte qu'ici, les gens sont tellement habitués à tout ce qui est mauvais, en fait. Donc, c'est devenu normal dans la tête de tout le monde, de sorte que les mauvaises odeurs ne dérangent plus les vendeuses. Pour elles, c'est vraiment leur argent, quoi, et rien d'autre, en fait. Et très souvent, il y a certaines qui tombent malades, mais qui ne savent même pas que c'est la cause de leur maladie.
Donc ça, c'est un des problèmes. Et vous vouliez m'emmener dans un autre endroit?
Oui, je vais vous emmener dans un autre endroit. Et là-bas, c'est des eaux usées qui coulent tout le long du quartier jusqu'à la voie même publique. Et cette eau-là, vraiment, elle est très, très nauséabonde. Et là encore, il y a des vendeuses, il y a plein de personnes qui vendent même à manger à côté. Et pourtant, ces mêmes personnes-là se plaignent de l'odeur que dégagent ces eaux usées-là.
On va y aller comment? En baka?
Oui, on peut prendre un baka pour être plus rapide.
Alors, un baka, c'est un camion, un petit bus que l'on
c'est
va appeler.
Le baka, c'est là.
Ok. On va y aller.
Raconte. Vidange. Deux places.
Pardon.
Et là, très souvent, l'eau est déversée sans traitement. Hein. On déverse l'eau usée sans traitement. Et c'est dans le même caniveau là que ça passe. Le même caniveau qu'on a retrouvé depuis le zoo, c'est dans ce même caniveau-là que ça passe. Et sans traitement, ça se retrouve directement dans la lagune.
Parce que les camions qui sont là, ils amènent l'eau usée des maisons.
Oui, des maisons.
Donc, il y a plein de camions citernes qui ont des tuyaux. Et ils déversent.
Oui.
Attention, on va se faire écraser là. Et ils déversent leurs eaux usées dans le caniveau finalement.
Oui, effectivement. On
avance. Faire attention parce que la circulation ici, c'est pas facile.
C'est,
hein.
C'est très, très difficile. Ici, on constate que les conducteurs ne respectent pas les piétons ici. Parce que, bon, quand quelqu'un traverse la route, il ne s'arrête pas pour laisser le passage.
On a survécu.
Oui.
Alors, nous allons voir qui, là?
Là, on va voir d'autres vendeuses encore qui sont assises. Vous voyez l'eau usée là-bas. Ce qui coule là-bas, là, c'est cette eau-là qui traverse le long du quartier.
Ah oui, on voit en effet de l'eau qui coule. Il y a une odeur, hein, on sent un petit peu quand même que ça ne sent pas très bon. Vous parlez en quelle langue là?
En djoula. Le malinké, bon, c'est la langue qu'elle a plus parlé, peut-être même beaucoup plus que le français. Parce que on retrouve ça un peu partout, à travers tout le pays.
Bonjour madame.
Elle dit qu'elle ne peut pas s'exprimer en français. Donc, la dame se prénomme Sally Diarasuba. Elle dit qu'elle est veuve et que raison pour laquelle elle est obligée de venir vendre à côté de cette eau usée-là pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison et qu'en réalité, elle n'a pas le choix, en fait.
Alors là, il y a une odeur qui est quand même assez forte, très désagréable. Est-ce que vous la sentez encore, cette odeur?
Donc, Madame Diarasuba dit effectivement que l'odeur est très, très mauvaise et qu'elle sent cette mauvaise odeur-là. Et qu'en saison des pluies, c'est vraiment encore pire.
Et pendant la saison des pluies, c'est tout inondé ici?
Dibé yambeta. Nisani boyana ere.
Ok, donc Dame Sally dit qu'effectivement, que quand il pleut, tout le périmètre est inondé et qu'elle avait installé un conteneur là pour pouvoir mettre ses bagages dans ce conteneur, ses articles qu'elle vend. Et malheureusement, ce conteneur a été détruit lors de la casse récemment à Abidjan.
Parce qu'ici, ça fait partie des quartiers que le gouvernement du district veut assainir. Il veut qu'il n'y ait plus personne ici.
Elle ne savait pas que cet endroit-là était destiné à être cassé plus tard et que même le jour de la casse, elle n'était pas présente. Elle avait perdu un neveu dans un accident et elle était allée aux obsèques de ce dernier-là. Et quand la casse a commencé, ce sont ses voisins qui ont demandé pardon à ce qu'on laisse son conteneur jusqu'à ce qu'elle arrive pour pouvoir récupérer ses articles qu'elle vend. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Merci, madame. Aniche.
Merci beaucoup.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Pour parler de ce délicat sujet de la gestion des eaux dans les villes africaines, nous sommes avec plusieurs invités dans un studio installé par François Porcheron au troisième étage du Capitole Hôtel dans la commune de Cocody, dans le centre d'Abidjan. Des invités que je vous présente tout de suite. Stéphanie Dos Santos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et démographe à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. À vos côtés, Éric Pascal Zahiri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien de l'atmosphère et enseignant-chercheur au laboratoire de physique de l'atmosphère et de mécanique des fluides à l'université de Félix Houphouët-Boigny. Et alors, vous avez tous les deux travaillé sur le programme Évidence. Alors, Évidence, ça signifie... C'est un acronyme, événement pluvieux extrême, vulnérabilité aux inondations et à la contamination des eaux. Alors, preuve que l'interdisciplinarité est une richesse. Et comment est-ce que vous réagissez au reportage que nous venons d'entendre, Stéphanie Dos Santos?
Ce reportage m'invite déjà à réfléchir à la question de la dignité humaine face à ces événements qui sont récurrents chaque année à Abidjan, à Dakar et dans d'autres capitales ou villes d'Afrique subsaharienne. Et cette question de la dignité, je la rapproche d'une expression qu'une des personnes interviewées a employée et qui est celle où on n'a pas le choix. Ou bien à Abidjan, on dit aussi « on va faire comment ?». C'est-à-dire qu'il faut bien voir que toutes ces conditions environnementales de vie imposent des conditions que les populations ne souhaiteraient pas et donc s'attaquent directement à leur dignité de vie de manière générale.
En effet, on l'entendait dans le reportage. Éric Pascal Zahiri, le problème part de loin puisque un bon nombre de villes se sont installées dans des zones à risque. Et même Abidjan s'est construite pour une partie sur des zones à risque.
Oui, disons que 26% du territoire abidjanais est caractérisé des risques. Risque d'inondation, risque de glissement de terrain. Et parfois, nous avons des villes, la ville même qui est installée dans des vallées. Donc tout cela rend propice les phénomènes d'inondation dont on parle là. Mais il faut voir bien qu'en amont, c'est vrai, il y a les changements climatiques. Mais on voit bien qu'il y a des facteurs aggravants qui peuvent donc expliquer tous ces phénomènes d'inondation que nous constatons dans la ville.
Oui, parce que vous êtes physicien de l'atmosphère, donc vous pouvez en effet nous parler de l'évolution du cycle des pluies qui est souvent pointé du doigt comme étant la cause principale de ces inondations.
Tout à fait. C'est vrai que nous sommes dans le contexte d'un changement global du climat, donc ce qui fait que les impacts peuvent être plus importants selon les lieux. Notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, on peut avoir une fréquence de pluie qui soit beaucoup plus faible. Par contre, avec des pluies qui sont de plus en plus intenses, donc qui ne sont pas forcément celles attendues par tout le réseau de drainage que l'État met en place en dessous pour pouvoir donc faciliter l'évacuation des eaux.
Ouais, c'est ce qui fait que ça déborde, comme on l'entendait dans le reportage. Et Stéphanie Dos Santos, il y a d'autres villes qu'Abidjan qui sont construites sur des zones à risque.
Oui, par exemple, on a un projet actuellement avec l'université Cheikh Anta Diop et l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On constate déjà que d'un point de vue physique, installer des populations humaines et donc installer une ville dans la région de Dakar où 42% des sols sont hydromorphes, c'est-à-dire que dans 42% des sols, la nappe phréatique est affleurante au sol. Donc on voit bien que en enlevant le facteur humain, on voit déjà que ces zones sont à risque d'inondation.
42%, c'est énorme. Alors, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la croissance démographique ou l'intensification des pluies extrêmes liées au changement climatique qui sont les uniques causes de ces catastrophes. Nous en parlons avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, place à la musique sur RFI avec les Camerounais Dadju et Taïk dans C'est pas du vent, évidemment.
Salima beti na kacha motema to sala kabande kole loto ko bundana esa na mala suka to benga na makila ah makila nanga usalima beti na kacha motema to sala kabande kole loto ko bundana esa na mala suka to benga na makila
Dadju et Taïk et leur Makila Wablé dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à Abidjan cette semaine à l'occasion de la clôture du programme Hip Hop Ville Durable qui a réuni une trentaine de jeunes du Bénin, du Cameroun et de Côte d'Ivoire. Ils ont été formés scientifiquement et techniquement pendant 2 ans pour réaliser des vidéos sur les questions d'environnement dans leur ville. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux inondations, un phénomène qui touche toutes les villes d'Afrique subsaharienne comme Douala au Cameroun, et c'est ce que démontre la vidéo hip-hop que vous avez produite, Serge Aimé Tachemo. Nous l'écoutons et nous en parlons après.
Je suis ici depuis 2014. Nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas l'eau au quartier. Mais au fil du temps, nous sommes dépassés. Au fur et à mesure qu'il pleut, l'eau ne fait que monter. Même quand il y a une semaine de soleil, il y a toujours l'eau. Il est bien vrai, il y a les petites sources dans les terrains où l'eau sort du sol. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Il y avait ces sources, mais l'eau n'avait pas envahi le quartier comme vous voyez aujourd'hui. Les conséquences sont nombreuses. Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école quand il pleut. Moi-même, je suis enseignante et pour sortir le matin, j'ai des difficultés. Parfois même, je me trouve à manquer l'école parce qu'il n'y a pas moyen de sortir. Donc, on ne sait pas vraiment comment expliquer ce phénomène. Et par rapport à la vie en communauté, l'enfant ne s'épanouit pas avec les autres enfants au quartier. Il n'y a pas d'espace pour jouer. Les hommes du quartier ont cru qu'ils pouvaient évacuer le drain avec les mains, mais pas de résultat. Donc, chacun a pris des mesures à faire les étagères pour suspendre les valises, les assiettes, même les lits sont suspendus. En 2014, quand j'arrivais ici, les espaces étaient cultivables. Mais aujourd'hui, c'est impraticable. Même pour couper les herbes, il n'y a pas moyen. Quand il y a les inondations, il y a les déchets qui viennent de un peu de partout. Et ça envahit tout le quartier. Les enfants ici ont le palud tous les jours, la typhoïde. Heureusement pour nous, jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu de perte en vie humaine. Puisque quand il pleut, on prend des mesures parce que nous sommes déjà habitués. Mais les dégâts matériels, on ne peut pas compter. Nous sommes encore ici parce qu'on n'a pas où aller. On va supporter en attendant le jour qu'on vienne nous enlever dans la merde.
Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site Hip Hop Ville Durable. Serge Aimé Tchatchemo, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vous qui avez réalisé cette vidéo. Alors, évidemment, nous sommes à la radio, donc nous n'avons entendu que le son de la personne que vous avez choisi d'interviewer. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce sujet?
L'idée est juste après la formation qu'on a eue à Abidjan. Il nous était donné donc de faire des vidéos à thème sur les changements globaux. Vivant à Douala, avant même de retourner au Cameroun, j'avais déjà une idée de faire une vidéo sur l'inondation. Mais le sujet en particulier, je l'ai vraiment eu au hasard parce que j'allais chez mon menuisier pour mon meuble et du coup, j'arrive, je trouve tout le quartier inondé. En posant quelques questions, c'est son épouse justement qui intervient dans la vidéo. Elle était à l'aise à me répondre. Du coup, j'ai demandé à l'instant si elle pouvait le faire devant mon téléphone. Chose qu'on a faite le même jour.
Oui, parce que c'est ça le principe de hip-hop. Hein. C'est filmer avec son téléphone des témoignages bruts pour dénoncer en fait des situations. Et la personne s'y est pliée assez facilement. Ce n'est pas évident de parler devant une caméra.
Justement, je crois que le choix a été motivé par son allocution qui était vraiment facile. Et elle était coopérante, elle acceptait naturellement de répondre puisque c'était sa façon à elle d'exposer son problème, de faire connaître son problème partout où on peut l'entendre.
Et est-ce que vous aviez conscience des causes et des conséquences de ce problème des inondations avant de participer à ce programme Hip Hop Ville Durable?
Oui, déjà Douala, c'est une ville de la côte. Du coup, quand il y a souvent de fortes pluies, naturellement, il y a de l'inondation parce que le niveau de la mer n'est pas trop loin du niveau du sol. Donc, il y a des zones qu'on sait que chaque année, quand il va pleuvoir, dans cette zone, il y aura de l'inondation. Donc, c'est peut-être ça qui m'a fait penser naturellement à ce sujet. Mais particulièrement sur cette vidéo, j'ai découvert une autre chose parce que d'habitude, l'inondation vient des eaux de pluie. Mais là, il y avait une autre particularité. Il y a une partie de l'eau qui sort plutôt du sol. Donc, c'est ça qui m'a un peu marqué dans cette vidéo.
Là, Stéphanie Dos Santos, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Dakar, sauf que nous sommes à Douala, c'est-à-dire une nappe phréatique affleurante. Donc forcément, les conséquences, on l'entend dans ce reportage, sont dramatiques pour les populations.
Absolument, on le voit bien avec ce reportage, mais avec d'autres, finalement, les facteurs, comme vous le disiez tout à l'heure, à la fois démographiques, qui sont généralement se pointer du doigt, la croissance démographique, que l'on peut entendre de temps en temps exponentielle, ou bien le changement climatique. Finalement, ce sont des facteurs parmi d'autres qui sont là, dans les villes, et qui font des effets cumulés sur ces risques d'inondation et leurs répercussions sur la vie des populations.
Oui, en fait, on comprend bien que les infrastructures des villes ne sont pas adaptées. Enfin, les gens ne s'installent pas forcément au bon endroit. Et Éric Pascal Zahiri, ça va dépendre des quartiers en même temps. Il y a des quartiers riches qui sont un peu mieux aménagés que les quartiers pauvres.
Oui, bien sûr. Bon, il y a des quartiers qui sont propices au phénomène d'inondation, comme l'a dit Stéphanie, parce que nous avons là des sols qui sont déjà saturés. Et visiblement, cette femme habite dans une zone qui est marécageuse, donc qui est normalement une zone non édificandie, mais qui est
non constructible.
Non constructible, bien sûr, non constructible, mais qui est malheureusement occupée. Et ce que je voudrais dire peut-être, c'est que derrière, il y a un problème qu'elle soulève, qui n'est peut-être pas entendu, c'est le problème de la gestion des ordures, qui est un phénomène qui touche toutes les villes d'Abidjan, toutes les villes d'Afrique, du moins.
Abidjan compris.
Abidjan compris, bien entendu, toutes les villes d'Afrique. Et qui démontre qu'il y a en amont une gestion à faire de tout ce qui est des ordures. Mais bien entendu, pour revenir peut-être à votre question, c'est que certains quartiers qui sont supposés être des quartiers UP, des quartiers des personnes qui sont, entre guillemets, plus ou moins nantis, n'échappent pas justement au phénomène d'inondation.
Oui, il y a des exemples, hein, Stéphanie Dos Santos, de cette situation de différence entre les quartiers.
Absolument. Il faut bien voir que ce ne sont pas simplement les populations les plus pauvres qui sont touchées. Et donc, si on analyse ça en tant que chercheur d'un point de vue de justice environnementale, on pourrait se dire qu'il y a une certaine justice environnementale. Or, ce qu'on constate lorsqu'on fait des analyses plus fines, bien sûr, c'est qu'il existe de véritables injustices environnementales. Et le point déterminant, c'est dans la gestion collective, mais surtout au niveau de toutes les couches de gouvernement, on voit bien que la réponse apportée par la gouvernance en général aux inondations est très différenciée selon que l'on habite dans un quartier pauvre ou selon qu'on habite dans un quartier riche.
Est-ce que c'est en fonction de où habite celui qui prend les décisions ?
Mais c'est un petit peu ça. On parle de gestion bottom-up ou de gestion top-down. Eh bien là, dans les quartiers riches, ce sont plutôt des gestions que nous, on a appelées top-top. C'est-à-dire que finalement, ce sont les gens qui décident et qui ont les leviers, qui sont dans les leviers de pouvoir de décision, qui peuvent bien intervenir sur plus de l'infrastructure plutôt que des déguerpissements. On n'observe pas de déguerpissements dans les quartiers riches. Et pourtant, il y a des zones à risque d'inondation dans les quartiers riches également. Mais la réponse apportée est très différente selon le statut, on va dire, socio-économique du quartier. D'où la question aussi des injustices environnementales.
Les conséquences de ces inondations ont de multiples impacts pour les populations, comme le démontre une autre vidéo qu'a réalisée l'Ivoirien Kwadjo Fojo Ahmed, qui a pour titre « La montée des eaux dans le quartier ». On l'écoute.
La montée des eaux nous fatigue, hein, beaucoup, 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 beaucoup. En santé et puis bon, en hygiène, ça nous fatigue. La montée des eaux fait que les gens se déplacent. Ils quittent leur habitation dans laquelle ils sont présentement, vu que l'eau monte, puisque l'eau vient d'en dessous. D'autres viennent de la lagune qui monte plus. L'excès fait que ça vient dans les quartiers. Mais quand c'est comme cela, les habitants sont obligés de quitter leur maison habituelle pour aller s'installer ailleurs. Avant, il n'y avait pas cette montée d'eau en excès, sauf quand il pleuvait. Donc nous devons chercher des moyens, des voies et moyens pour que l'eau ne monte plus jusqu'à ce niveau. L'eau qu'elle reste au niveau de la lagune seulement, mais pas dans les cours, dans les habitations, même dans les chambres. En l'année 81, la saison qui existait, et maintenant en l'année 2000, ce n'est plus la même saison. Donc il faut croire que le changement climatique est bel et bien vivant. Ça nous rend tristes et on essaie quoi faire. On essaie de monter encore nos maisons, mais quand ça vient, les maisons s'affaissent et le sable mis disparaît. Elle laisse place à cette eau-là qui vient stagner avec plein de moustiques, des ordures dedans venant de part et d'autre, avec de l'odeur, on n'arrive pas à bien y vivre. Nous voulons vraiment de l'aide au niveau de nos autorités, sinon ce n'est pas facile pour nous. Il y a des gens qui sont en train de draguer. Au fur et à mesure qu'on drague, on enlève le sable, la lagune s'approfondit. Je pense que le Tata venait nous envoyer des experts pour étudier le terrain et puis savoir ce qu'il faut faire. Il faut faire pour aider nous, peuples de Grand Bassam, qui sommes victimes de cette inondation-là.
Éric Pascal Zahiri, le changement climatique est donc bien vivant. C'est ce qu'on entend dans ce reportage. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion?
C'est vrai que, c'est vrai qu'on est conscient qu'il y a un changement, effectivement, du climat. Il y a des modifications du climat. Mais que derrière, elle a parlé aussi de l'effet de dragage qui a lieu dans la zone. Donc, il y a l'effet anthropique. Qui vient aggraver un peu les conséquences du changement climatique.
Et on entend, Stéphanie Dos Santos, les enjeux sanitaires hein, dans ce reportage. On parle des moustiques, des ordures. Tout ça, ça aggrave ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'injustice environnementale.
Oui, c'est ça. En fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, les villes concentrent on va dire, même l'ensemble des enjeux mondiaux sur des espaces plus ou moins aménagés, plus ou moins denses, et donc des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux sanitaires, des enjeux environnementaux. Et ça fait ce melting pot d'enjeux qui, analysé sous l'angle de la justice environnementale, par la question de la résilience, par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un point important, on peut définir la résilience comme la capacité à se donner le droit, mais aussi à avoir le droit à se reconstruire, à faire face. Et donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure dans la question du levier de décision. On voit que, certes, qu'on soit dans un quartier pauvre ou dans un quartier riche, on peut avoir, on peut subir les conséquences des inondations, mais c'est dans cette capacité à y faire face de manière soit individuelle ou collective ou communautaire, ce qu'on observe plus généralement comme réponse dans les quartiers plus pauvres, ou bien une réponse beaucoup plus liée à la gouvernance de la ville, voire du pays, comme on l'observe généralement dans les quartiers plus riches.
Alors, quelles sont les solutions justement pour désamorcer cette bombe à retardement que sont les inondations dans les villes d'Afrique subsaharienne? Nous en parlons dans un instant avec nos invités, mais tout de suite, place à la musique sur RFI avec les Ivoiriens Derteil et Prototype et leur titre Dans le cœur.
J'ai de la vitesse, mais bon, ma paye, faut pas que je fasse. Elle veut mon cœur, elle veut mon blé, elle veut mes fers. J'ai de la vitesse, mais bon, ma paye, faut pas que je fasse. J'ai le gâteau vu que j'ai l'idée. J'ai là avec ta meuf devant chaîne IP. Elle suce bien le Uber mérité. Elle voit la vérité, mais le cœur est allumé.
Ma vie d'avant, je vais plus la voir. J'ai laissé dans la chambre, chaque je vais plus la voir. Avant c'était chaud, maintenant ça va. J'suis avec un paquet, tu peux pas avoir.
Trop de quiches t'as dans les mains. Chaque soir, elle me demande, j't'encaisse tellement que j'reste pas jusqu'à demain.
Je veux de la vitesse, mais bon, ma paye, faut pas que je fasse. Elle veut mon cœur, elle veut mon blé, elle veut mes fers. Je veux de la vitesse, mais bon, ma paye, faut pas que je fasse. Elle veut mon cœur, elle veut mon blé, elle veut mes fers.
Dans le cœur, juste dans le cœur. Je fais des erreurs, elle m'a dans la tête. Dans le cœur, juste dans le cœur. Je fais des erreurs.
Bon, ma paye, faut pas que je fasse. Elle veut mon cœur, elle veut mon blé, elle veut mes fers. Faut de la vitesse, mais bon, ma paye, faut pas que je fasse. Elle veut mon cœur, elle veut mon blé, elle veut mes fers.
Dans le cœur, c'est le titre interprété par les Ivoiriens Derteil et Prototype, un titre que vous pouvez retrouver, comme beaucoup d'autres, dans la playlist de RFI qui est disponible sur toutes les plateformes. Nous sommes à Abidjan cette semaine à l'occasion de la clôture du programme Hip Hop Ville Durable. Vous l'avez compris si vous nous suivez depuis hier. Ce sont donc des jeunes, une trentaine de jeunes qui ont été formés pendant 2 ans scientifiquement et techniquement pour réaliser des vidéos sur les questions d'environnement dans leur ville. Ils sont venus du Cameroun et du Bénin pour passer la semaine ici à Abidjan et pour faire le bilan de cette expérience. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à l'un des thèmes qu'ils ont traité, les inondations, un phénomène qui touche toutes les villes d'Afrique subsaharienne comme Cotonou au Bénin. Bonjour Péniel Dagba.
Bonjour.
Alors vous avez participé à ce programme Hip Hop Ville Durable. Dans ce cadre, vous avez réalisé une vidéo intitulée « L'après de la carrière de sable d'Akokbato ». Comme nous sommes à la radio, nous écoutons le témoignage que vous avez recueilli et nous en parlons avec vous juste après.
Moi, je m'appelle Antoine Fandorin.
Je suis ingénieur biologiste médical. Actuellement, nous sommes ici dans la commune de Cotonou, dans le 12e arrondissement. Nous sommes sur le site de dragage de la société Afritexal. C'est une société qui était venue en 2010-2011 et Manu Militari, ils ont commencé par draguer du sable ici, en pleine ville. Je vis dans le quartier Akobatel ici depuis 29 ans. Je connais bien les joies du quartier, des zones qui s'inondaient, qui ne s'inondaient pas. Certaines autres qui n'étaient pas inondées sont devenues inondées, sont devenues des bas-fonds et des gens même fuient leur maison pour toujours maintenant. Ce problème qu'ils ont créé ici, c'est un problème très, 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 très sérieux qui a affecté même certains animaux aquatiques qu'on trouvait avant, on n'en trouve plus actuellement. Déjà draguer tout le sable qui est sous nos maisons et les maisons s'effondrent parfois. Ouais, c'est un problème qui est créé pour toujours. Hein. Et comment ils vont faire pour remédier? Les spécialistes vont penser à ça.
Péniel Dagba, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage dans le cadre du programme Hip Hop Ville Durable. Vous êtes étudiant en biologie marine à Marseille. Alors comment est-ce que vous avez eu l'idée de traiter ce sujet?
Pour dire, j'ai toujours, ça m'a toujours trotté l'esprit quand je passais par là, parce que déjà j'aime beaucoup la plage. Et pour quitter, pour aller à Godomain, pour la plage, il fallait passer par cette route. Et c'était une zone, quand tu venais, ça se voyait directement que voilà, qu'il y a eu des effets de l'homme dans la zone. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui a causé ça. Et c'est en cherchant que j'ai trouvé qu'il y avait eu un problème de carrière dans la zone. Et Hip Hop Ville Durable m'a donné l'occasion d'aller chercher, documenter, savoir beaucoup plus. Et c'est là que je suis tombé sur mon témoin qui m'a relaté. C'était aussi l'occasion pour moi de comprendre ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai voulu documenter ça pour le projet. Voilà.
Votre objectif, c'était de dénoncer cette situation?
Pas forcément. Moi, mon objectif de base, c'était de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel est le problème exactement, qu'est-ce qui cause cette situation. Et c'est là que mon témoin m'a... il était beaucoup plus allé sur... parce qu'il a subi les effets négatifs de ça. Et c'est là beaucoup plus... Lui, il était là pour, avec l'esprit de dénonciation. Et c'est là qu'on a compris que voilà, un peu plus.
Alors Stéphanie Dos Santos, cette vidéo pose la question du foncier quand même. Hein, parce que là, c'est une entreprise qui vient délibérément se servir du sable. Et ensuite, elle s'en va. Et là, les populations derrière se retrouvent à gérer les conséquences.
Absolument. Ça interroge directement le foncier, mais bien souvent quand on parle du foncier, on parle tout de suite de la population et du fait d'habiter sur un terrain. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Il faut bien voir aussi que selon le niveau de vie des individus, un terrain ne sera pas égal l'un avec l'autre. Une population plus pauvre va habiter sur un foncier plus petit, une population plus riche va habiter sur un foncier plus important. C'est pour ça que la question de la démographie n'est pas la seule à prendre en compte. Il faut bien voir que l'urbanisation, c'est aussi un taux de bâti. Le bâti, ça n'est pas simplement l'habitat, c'est aussi l'industrie, c'est aussi les écoles, c'est aussi les hôpitaux, mais c'est aussi des centres commerciaux, c'est aussi des stations-service, c'est aussi des hôtels. Et donc, on le voit bien là qu'il y a aussi des questions de qu'est-ce qu'on veut dans notre société, qu'est-ce qu'on veut dans notre ville et qu'est-ce que finalement est notre mode de vie, plus ou moins sobre ou non. Donc, on voit bien que ce n'est pas simplement... Bien au contraire.
Qu'est-ce qu'on priorise en fait? Comment on répartit l'espace?
C'est ça, oui, voilà. Et par le passé, on a observé dans nos recherches, et notamment grâce aux collègues de l'Institut de géographie tropicale de l'Université Félix Houphouët-Boigny, que certaines personnes, certains quartiers déguerpis, finalement étaient déguerpis. Pourquoi? Pour construire. Bon, j'ai donné l'exemple de la station-service, elle ne vient pas au hasard. C'est parce que justement, c'était pour construire par exemple une station-service.
Oui, donc ce sont des choix politiques, finalement, Éric Pascal Zahiri.
Oui, plus ou moins, parce qu'on voit bien que dans le reportage, les conséquences de tous les aménagements qui sont apportés, la construction du pont dont a parlé le monsieur, démontrent bien qu'il y a une limite, justement, à l'action d'apporter une réponse par événement ou par catastrophe. Pour moi, il faudrait une gestion, disons, beaucoup plus... anticipée, une gestion plus anticipée qui serait peut-être moins coûteuse que la gestion par catastrophe. Et je veux pour preuve, pour le seul cas d'un événement pluvieux qui a apporté, disons, qui a apporté 300 mm de pluie dans la commune de Cocody, entraîné une vingtaine de morts en 2018, on a relevé 20 milliards de dégâts.
20 milliards de francs CFA
de dégâts.
Alors peut-être si ça avait été anticipé...
Voilà, la reconstruction va exiger 10 fois plus, c'est-à-dire 200 milliards. Alors que si cela a été anticipé par un aménagement qui intégrerait, disons, toutes les zones, de sorte qu'il y ait cette synergie d'action, on aurait certainement pu, disons, avoir des dégâts moins importants.
En fait, Stéphanie Dos Santos, il faut que les pouvoirs publics prennent ce problème vraiment à bras-le-corps, au sérieux et dans l'anticipation, pas uniquement dans des actions violentes comme les déguerpissements qu'on voit ici en ce moment à Abidjan.
Oui, absolument. Et alors, à la fois que chacun prenne ses responsabilités, on ne dit pas que la population ne doit pas aussi avoir conscience de certaines choses. Et c'est pourquoi un projet comme Hip-Hop Ville Durable, qui a l'objectif de faire de la médiation scientifique, donc peut aussi apporter des éléments de réponse, de connaissance, en fait, à l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui sont impactés. Et donc, l'idée, c'est peut-être d'aller vers une gestion multi-acteurs de ce genre de phénomène, comme dans d'autres, hein, de manière générale, dans la vie durable en général, à la fois interdisciplinaire dans la recherche des connaissances. On le voit bien, ce n'est pas simplement le facteur humain, ce n'est pas forcément le facteur climatique qui joue, c'est une combinaison, une complexité de facteurs, mais aussi avoir un dialogue science-société et société multi-acteurs où l'ensemble des parties prenantes sont entendues et parlent pour finalement arriver à un consensus. Quand on a un problème dans nos familles, on parle pour régler un problème. Continuons avec cette sagesse finalement de faire émerger un dialogue multi-acteur. Ça nous semble vraiment quelque chose d'essentiel.
C'est le bilan de votre travail que vous avez réalisé tous les deux lors de ce travail scientifique évident, Éric Pascal Zahiri.
Tout à fait. Ce sont, disons, les résultats révélateurs de tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu démontrer en termes d'exigence pour que nous puissions, disons, circonscrire tout ce qui est impact des changements climatiques en termes d'inondation. Mais ce que je voulais rajouter à ce que Stéphanie dit, je pense qu'il y a une forte implication qu'il faut exiger, une forte implication de la gouvernance, notamment en ce qui concerne l'accès aux fonciers, l'aménagement des territoires. Et tout cela est important parce que c'est ça qui va permettre d'avoir le bon canal pour pouvoir finalement aborder la question des inondations et traiter le problème vraiment beaucoup en amont.
Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que là, par exemple, les 176 quartiers qui ont été identifiés ici à Abidjan, ben, y a des gens qui y habitent désormais. Donc comment faire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives ou des personnes, même dans d'autres capitales africaines, sont déplacées, voire indemnisés. On leur propose même d'habiter ailleurs. Mais la problématique, c'est que ben là où les gens vivent, il y a l'école des enfants, il y a la famille, il y a les amis, il y a le travail. Donc quand on est déplacé comme ça, souvent ils reviennent sur l'endroit dont on les a chassés.
Oui, absolument. On ne désocialise pas un individu de son réseau social, familial, professionnel, culturel, aussi facilement en fait. Et c'est pour ça sûrement que la question du déguerpissement ne s'oppose pas dans les quartiers plus riches, puisque ce sont des processus sociaux qui sont extrêmement complexes. Et par exemple, on le voit à Dakar, dans un quartier qui est nommé Diaraï, où il y a eu un plan de sauvegarde, de sauvetage de certaines populations plus au centre de Dakar, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ces mêmes populations qui ont été déplacées pour des raisons d'inondation subissent elles-mêmes dans ces quartiers des inondations.
C'est-à-dire qu'elles ont été installées dans un nouveau quartier qui lui aussi subit des inondations. Donc c'est
absolument
sans fin cette histoire.
Absolument, absolument. Bon, on voit là, c'est révélateur, d'où mon néologisme tout de suite, finalement, cette gestion par l'urgence dont vient de parler Éric, Et ce manque d'anticipation, par exemple la croissance démographique, les démographes savent l'anticiper sur 20 à 30 ans. Donc pourquoi ne pas à un moment donné aussi réfléchir à demain ? L'urgence est là, aujourd'hui, certes, c'est ça finalement l'une des complexités des enjeux des villes en Afrique au sud du Sahara. C'est finalement, il y a une urgence à laquelle il faut répondre tout de suite, mais aussi il faut anticiper, sinon on sera sans cesse dans l'urgence.
Oui, c'est pour ça que je disais, Éric Pascal Zéry, c'est une vraie bombe à retardement, cette question des inondations et de l'occupation de l'espace dans les villes africaines.
Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut prendre la mesure du risque pour pouvoir apporter des réponses anticipées, mieux conçues, pour que le problème soit réglé beaucoup plus avec une détermination plus importante.
Mais est-ce qu'on vous écoute quand vous dites ça ? Est-ce que le résultat de vos recherches sont arrivés jusqu'à l'oreille des décideurs ? Regardez.
Non, mais on envisage de faire une restitution de tous ces résultats dans le cadre de la clôture de ce projet. Et je pense que ce sera l'occasion d'inviter tous les décideurs, tous les services qui sont impliqués justement dans la gestion des inondations. Et c'est pourquoi Stéphanie disait tout à l'heure qu'il y avait l'aspect multi-acteur, multi-facteur, multidiscipline. Donc je pense que cette restitution sera l'occasion de pouvoir faire participer tous ces acteurs-là pour présenter nos résultats.
Voilà, et interpeller directement ceux qui sont en charge de la gestion des villes. Pour conclure, j'aimerais donner la parole aux hip-hoppers qui sont avec nous, Péniel et Serge. Est-ce que vous diriez que grâce au programme Hip-Hop Ville Durable, votre regard sur votre environnement a changé, Serge ?
Radicalement, ça a changé. Déjà, avant Hip-Hop, j'avais un faible pour tout ce qui est de l'environnement. Mais je crois que ça s'est accentué avec Hip-Hop. Je traîne souvent des bouteilles vides sur des kilomètres pour trouver une poubelle. Et au sorti de là, je crois que je suis même en train de travailler pour faire un festival dédié aux vidéos liées à la nature.
À Douala donc ?
À Douala, bien sûr.
Voilà, il faut en profiter, hein. Vous êtes sur RFI là. Donc on peut vous contacter peut-être, on en reparlera, vous nous tiendrez au courant. Et Péniel, vous, quel bilan vous dressez de ces 2 ans de travail avec Hip-Hop Ville Durable ?
Oui, moi particulièrement, je crois que ça m'a donné beaucoup plus de compétences dans la réalisation, enfin cette nouvelle méthode d'utiliser pour exposer les problèmes environnementaux et aussi pourquoi pas aussi les solutions. Et qui a pour objectif surtout d'aller toucher une autre plage de population, même parfois quand c'est en langue locale, ça va toucher les populations qui ne comprennent pas forcément le français et aussi les problèmes environnementaux qui sont vraiment présents dans le monde et aussi dans leur ville, même à côté, ils ne savent pas, mais ça m'a donné cette compétence voilà, de continuer à exposer ces problèmes et partout dans le monde. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Hip-Hop Ville Durable. Les liens sont disponibles sur la page de l'émission RFI.fr. Vous trouverez aussi des vidéos, notamment des reportages que nous avons effectués sur les réseaux sociaux de C'est pas du vent. Et vous retrouverez évidemment les vidéos Hip-Hop dont nous avons parlé. Merci à François Porcheron d'avoir installé ce studio au 3e étage du Capitole Hôtel dans la commune de Cocody à Abidjan. Merci à Marie-Ève Miguérès et à Gaëlle Yanga de l'IRD pour la préparation. Clin d'œil à Max Ball et à Gaëlle Flogère qui gère la communauté hip-hop à Paris. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.